Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu présent, donc si nombreux, à l'invitation de la librairie Jean Calvin. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Naud-Dufour, qui est donc la directrice du Centre européen du résistant déporté, qui est situé sur l'ancien site du camp de Natzweiler-Struthof, qui est historienne, spécialiste de ce camp, de cette période, qui a aussi écrit plusieurs biographies autour du général de Gaulle et des femmes du général de Gaulle. Donc on en reparlera sûrement à la fin de cette conférence. Et elle va nous parler des protestants déportés au Struthof, puisqu'un certain nombre de protestants ont été engagés à la fois dans la résistance au nazisme et ont subi différentes formes de répression. Donc, merci beaucoup, Frédéric, d'être avec nous ce soir, et je vous laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour évoquer un thème qui n'est finalement pas si simple à évoquer, puisque dans ce camp de Natzweiler, où étaient déportés essentiellement des résistants à 80%, ce qu'on appelle des déportés politiques, venus de toute l'Europe, venus de plus de 30 pays européens. Il y avait certes des protestants, il y avait sans doute des catholiques, il y avait beaucoup d'agnostiques, puisqu'on compte beaucoup de communistes dans ce camp. Et la difficulté qu'on a pour aborder cette thématique, c'est que dans les archives nazies, il n'est nullement fait mention de la religion des gens. Donc pour moi, il est impossible de vous dire ce soir combien il y avait de protestants sur les 52 000 déportés de ce camp, pas plus que je ne pourrais vous dire combien il y avait de catholiques ou de juifs. Quoique pour les juifs, c'est un petit peu plus facile, puisque les nazis, justement, tenaient la statistique. Donc, j'ai essayé de procéder non pas de manière statistique ou scientifique, mais plutôt de vous proposer, si vous en êtes d'accord, de dresser le portrait d'un certain nombre de déportés protestants dont nous avons connaissance à travers les travaux qui ont été menés sur l'histoire de ce camp. Et malheureusement, les seuls déportés protestants que je connais sont des Français. Je dis malheureusement parce que c'est un biais. Il faut bien qu'on en soit conscient avant de commencer la conférence, puisque la majeure partie des déportés de ce camp n'étaient pas des Français. Le plus gros groupe de déportés est polonais, le second plus gros groupe est russe, et puis ensuite on a toute la population européenne qui est dans le camp, des Norvégiens, des Hongrois, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens, etc. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de manière assez biaisée, mais pour quand même donner à voir ce qu'a été la réalité de cette déportation protestante et la façon dont ces protestants ont tenu ou pas à l'intérieur de ce camp de concentration de Natzweiler. Alors peut-être, je ne sais pas quelles sont vos connaissances en histoire sur la période, rappelez simplement que les protestants en France sont dans une situation particulière qui n'est pas forcément celle des protestants des autres pays d'Europe, puisqu'on a un conseil national de l'Église réformée ainsi qu'une fédération protestante de France qui sont présidées par un pasteur qui s'appelle Marc Bögner, qui est replié à Nîmes pendant une grande partie de la guerre. Et cette fédération et ce conseil national croient pendant une longue période à la possibilité d'un dialogue avec le régime de Vichy. Ce qui fait qu'on n'a pas officiellement de la part de l'institution un positionnement résistant. Je vous dis ça parce que si on compare avec d'autres pays européens, on a des cas quand même très différents. On peut citer par exemple le cas de la Norvège, de l'Église luthérienne de Norvège, qui a eu une attitude tout à fait remarquable, puisque le 1er mars 1942, les évêques lisent une lettre pastorale dans tous les temples où ils annoncent qu'ils refusent désormais d'être liés au gouvernement qui vient d'être, à la tête duquel vient d'être nommé Kiesling, qui est un pro-nazi. Et comme l'Église est une institution d'État, la plupart de ces pasteurs et des membres du clergé luthérien sont arrêtés et vont être ensuite déportés. Donc là, on a une attitude officielle qui est très, très nette. On a des attitudes plus mitigées. Je pense que vous connaissez le cas de l'Allemagne à la même époque, où on va avoir quand même un ralliement global des protestants et des Allemands de manière générale à Hitler. Et malgré tout, une opposition au sein de l'Église protestante à travers ce qu'on va appeler l'Église confessante, Bekennende Kirche, qui va s'engager contre les nazis. Donc vous voyez, dans chaque pays, on a des situations un petit peu différentes. Pour la France, étant donné qu'on n'a pas d'engagement marqué de la part de l'institution, les prises de position vont être individuelles. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Moi, ça m'intéresse parce que la prise de position individuelle, c'est ce qui caractérise de manière générale la résistance. Tout résistant, à un moment donné, va être face au choix et va être face à la décision à prendre, soit de s'opposer, soit d'être passif, soit d'accepter un régime qu'on lui impose. Ces protestants français, ils vont prendre position dans ce grand débat qui dépasse la question de la religion. C'est un débat qui concerne l'humain, qui concerne le choix de l'humanité de vivre sous la servilité ou de vivre selon les préceptes de l'humanisme. Ils vont se positionner avec ce qui les anime, c'est-à-dire leurs convictions, leur rapport à l'Évangile, leur rapport à l'enseignement du Christ, à l'Ancien Testament, où la place d'Israël est très importante, et on va voir que ça joue un rôle vraiment crucial. Et ils vont se positionner, pour la plupart d'entre eux, également par réseau. C'est-à-dire que dans les cas que l'on va voir, on observe une grande importance des pasteurs ou des gens d'influence qui, dans l'Église protestante, vont convaincre certains fidèles d'aller dans ce sens-là, qui vont s'encourager entre eux. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a un livre de Patrick Cabanel qui s'appelle « Résister, voix protestante » que je vous conseille, qui rassemble les textes prononcés par les pasteurs pendant la Seconde Guerre mondiale, par lesquels ils... avec l'aide de l'Évangile, avec l'aide de la Bible, ils arrivent à s'intégrer dans le débat contemporain. C'est assez subtil, mais c'est ça aussi qui va convaincre un certain nombre de protestants de s'engager. Alors, avec l'aide de Stéphane qui est à côté de moi, je vais dresser le portrait de plusieurs de ces protestants de Natzweiler. Je lui laisserai parler de son sujet de prédilection en la personne de Jean-Pierre Crémer. Et moi, je voudrais dresser l'itinéraire d'un certain nombre de protestants. Et tout d'abord, en m'appuyant vraiment, j'ai rien inventé, je m'appuie sur les ouvrages de mes collègues historiens, sur ce livre qui s'appelle « Frères de misère » que vous trouverez à la librairie. Le portrait d'un groupe de protestants du pays de Montbéliard. Et là aussi, je pense que c'est important de partir... des racines, de l'enracinement des gens. Ce pays de Montbéliard, on parlait tout à l'heure des Cévennes, qui sont une terre de résistance depuis très longtemps. Le pays de Montbéliard, à sa façon, en est un également, puisque depuis le XVIe siècle, c'est un îlot protestant au milieu de terres catholiques. Et puis, avec le XIXe siècle, avec l'industrialisation, le nombre de catholiques augmente et les protestants vont être désormais une minorité sur leur terre de Montbéliard et vont se sentir très soudés et fonctionner un petit peu dans cet esprit déjà de résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette zone du pays de Montbéliard appartient à la zone interdite du Nord-Est et ça va avoir une conséquence importante, c'est-à-dire que les liens avec l'inspection luthérienne de Paris vont être extrêmement réduits. Et cette église du pays de Montbéliard va fonctionner dans une relative autonomie. La géographie, c'est très important en histoire. On ne peut pas faire l'histoire sans la géographie. Et si vous voyez où est Montbéliard, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que ce pays de Montbéliard, il a des contacts fréquents et anciens avec les Allemands, par sa position, et avec les Suisses. Et notamment, les protestants du pays de Montbéliard sont très au courant de ce qui se passe en Allemagne depuis 1933, de ce qu'ont fait déjà un certain nombre de protestants allemands contre le nazisme. Et puis, avec les Suisses, ils sont en contact avec un pasteur qui s'appelle Barth et qui joue un rôle très important dans la diffusion de ces idées de résistance. Barth va s'opposer aux autres protestants, aux autres chrétiens allemands. Ces protestants, ces Deutsche Christen, qui se sont ralliés à Hitler... par respect de cette fameuse théorie des deux règnes de Luther, qui fait que l'Église, l'Évangile, ne peut pas normalement critiquer théoriquement le pouvoir politique. Et Barthes, lui, va être tout à fait du côté de l'autre aile de cette Église protestante, l'Église confessante, qui dit que la seule allégeance que doit un croyant, c'est au Christ et certainement pas au pouvoir politique. Et en 1935, Barthes, qui est alors en fonction en Allemagne, refuse de prêter allégeance au Führer et il doit quitter l'Allemagne, il rejoint la Suisse et il va écrire beaucoup de textes contre Hitler et influencer un certain nombre de pasteurs, dont l'un d'entre eux s'appelle Buschenschutz, et on va le retrouver avec un rôle très important dans ce pays de Montbéliard. Il écrit en octobre 40, une lettre aux protestants de France, ce Barthes, en leur disant « la guerre doit continuer spirituellement ». Et cette spiritualité, elle va être au cœur de la démarche de ces protestants. Je vais vous parler plus particulièrement de l'un d'entre eux, qui s'appelle Pierre Rollinet, qui est toujours vivant. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, ce matin même. D'ailleurs, il savait que je venais là et il était très heureux que je vienne me parler à ses amis ici ce soir. Pierre Rollinet est tout jeune, hein, il a à peine 18 ans et il fait partie d'un groupe de jeunes qui est animé par un pasteur qui s'appelle Roulet, où à partir de 1940 on affirme dans ce groupe une certaine hostilité au nazisme, et dans la famille de Pierre, là aussi il n'y a pas seulement l'institution, il y a aussi ce qui se dit dans la famille. C'est une famille où l'antisémitisme est tout de suite critiqué et rejeté. C'est-à-dire les parents de Pierre ne se reconnaissent pas du tout dans cette idéologie. Et par conséquent, Pierre, qui est déjà apprenti aux usines Peugeot de Montbéliard, est sollicité deux fois pour aller travailler dans les usines en Allemagne, parce que l'Allemagne est déjà en quête de main-d'œuvre. Il refuse à deux reprises, ça n'est pas encore obligatoire, hein, donc il refuse à deux reprises. Et quand arrive la mise en place du service du travail obligatoire, en février 1943, Il décide, alors là, cette fois, du coup, de refuser, c'est-à-dire de désobéir. Vous voyez comment les gradations se font, hein. Au début, on refuse, on garde ses raisons en soi. Et puis là, il prend une décision très importante. Il refuse de partir et il se débrouille d'une manière assez habile pour ne pas prendre le train dans lequel il devrait rejoindre le STO. Et il bascule dans la clandestinité. Quelques mois auparavant, il a fait la rencontre de ce pasteur que je vous citais tout à l'heure, Buschenschutz, qui a été influencé par Barthes, et il va participer à plusieurs réunions secrètes qu'organise ce pasteur, dont le thème est « Christianisme et nazisme ». Vous voyez, le thème est abordé très franchement. Et c'est Buschenschutz qui va lui fournir ses premiers faux papiers au nom de Georges pour qu'il échappe au STO et à l'arrestation. Et dans ces réunions, Pierre Rollinet explique, il témoigne, il dit « Dans ces réunions, on nous a mis les points sur les i, il fallait reprendre les deux mots d'ordre de la réforme, résister et en Dieu mon appui ». Et donc à partir de ces deux mots d'ordre, il va commencer son itinéraire de résistant cette personnalité de Buschenschutz, qui était d'ailleurs commissaire régional des éclaireurs unionistes jusqu'à leur dissolution par les Allemands, et qui a tenu un journal dans lequel il écrit le 17 juin 40, la veille de l'appel du 18 juin, mais c'est aussi un bel appel qu'il écrit. Si la France veut vivre, elle vivra. Si elle ne veut pas, elle mourra. Nous avons fait notre devoir entier. Nous continuerons chacun dans notre sphère et nous vivrons, car nous avons acquis le droit de vivre et de parler la tête haute. Et donc Buschenschutz, dans cette filiation, va travailler pour les réfractaires du STO, pour cacher des juifs, et puis il va se mettre en contact avec un certain nombre de mouvements de résistance, notamment Libération Nord et l'organisation civile et militaire qu'il met en place pour cette zone du pays de Montbéliard. Alors Pierre, que devient-il pendant ce temps-là? Eh bien, on lui a trouvé une planque, si on peut dire. Au printemps 1943, on le met dans un institut protestant qui est l'institut de Gley, qui est un internat pour des élèves, où il est surveillant. Et le directeur de cet institut est un pasteur qui s'appelle René Juteau, qui lui aussi était dans les éclaireurs unionistes, mais avec un parcours très différent de celui de Buschenschutz, qui montre qu'on peut arriver au même résultat, c'est-à-dire la résistance et la déportation, en partant de deux positions idéologiques qui ne sont pas semblables. Donc Buschenschutz est très tôt hostile au nazisme, alors que Juteau a cru pendant une certaine période à la possibilité de coopérer avec Vichy. C'est ce qu'on appelle un vichysso-résistant. Et puis, il a fallu qu'il attende 1942 pour rejeter Vichy à cause des lois antisémites. C'est ça qui va être le déclencheur chez lui de son rejet. Alors, autour de, ces, de cet institut de Glay, il y a un certain nombre d'enseignants, de surveillants qui font partie de la résistance et qui vont commencer à multiplier des attentats. C'est une zone qui est très stratégique, de voies ferrées, de péniches, d'industrie. Et la répression va commencer à se mettre en place au mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre 1943, avec l'arrestation de Buschenschutz tout d'abord, et puis le 27 novembre 1943, l'arrestation d'un camarade de Pierre Rollinet qui était en train de transporter des armes pour le réseau de résistance, qui est formellement interdit. Et puis, de fil en aiguille, d'autres vont être arrêtés, un camarade qui s'appelle Brenez, qui sont des jeunes élèves. Et puis, l'Institut de Glay va être encerclé et Pierre Rollinet est arrêté le 29 novembre 1943 avec un autre élève qui s'appelle Meunier et un autre qui s'appelle Robert Salomon, dont je vous parlerai tout à l'heure également. Le plus jeune a 16 ans et demi. Donc au total, ça nous fait 8 personnes arrêtées et qui vont être conduites à la prison de Montbéliard. Et le 30 janvier 1944, ces personnes-là sont condamnées au titre d'un décret qui date de 1941, un décret nazi, qui a institué une catégorie de déportés qui s'appelle les Nacht und Nebel, les nuits et brouillards, c'est-à-dire tout simplement des déportés qui sont voués à disparaître dans la nuit et le brouillard, c'est ça que veut dire le titre du décret, et le camp de Natzweiler a été désigné pour recevoir tous ces Nacht und Nebel d'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le lieu de mémoire de cette catégorie de déportés qui concerne des résistants, des opposants politiques des pays occupés par l'Allemagne. Pierre Rollinet et les sept autres, les sept déportés, montent dans un train Gare de l'Est en avril 1944 et ils arrivent par train à Strasbourg, changent de train, vont jusqu'au bout de la vallée de la Bruche et sont envoyés au camp principal de Natzweiler, qui à l'époque, en avril 1944, compte 3500 détenus, donc on n'est pas encore aux chiffres de l'été, qui vont être autour de 6000 détenus en été, mais on est déjà dans une population très abondante. Et les premiers, alors comme ce sont des NN, ils sont particulièrement maltraités. Dans leur dos, on leur a peint deux lettres rouges, les deux N, et ils vont être l'objet de la vindicte et de la violence des SS encore plus que les autres déportés, ce qui fait que l'un d'entre eux, Brenez, meurt un mois à peine après son arrivée, le 17 mai. Et dans son témoignage, Pierre rapporte le testament qu'il lui fait dans le camp. Je vous le lis. Il lui dit, il a la diphtérie, il est à côté de Pierre et il lui dit, écoute, je vais mourir. Si tu as la chance de rentrer, tu diras à ma mère que je sais pourquoi je meurs. Je meurs pour la liberté de la France. Tu lui diras que si c'était à refaire, même en connaissant les risques, je le referais. J'espère qu'elle comprendra. Et ce témoignage, il est exactement les paroles que transmet aujourd'hui Pierre Rollinet, qui a 97 ans depuis quelques jours, et qui dit toujours, si c'était à refaire, je referais cette expérience de la déportation. Alors c'est une parole qui peut paraître très choquante, et en même temps, quand on écoute son témoignage, on la comprend, c'est-à-dire que d'une part, il le referait parce que c'est la conséquence de la résistance, c'est-à-dire que c'est le prix qu'il a payé pour résister, donc ça, ça n'a pas de prix, justement. Donc il referait la résistance, quitte à être déporté. Mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire que pour lui, la déportation, ça a été un instant d'observation unique de l'humanité, c'est comme ça qu'il le dit, où il a assisté à la fois au plus terrible, à la violence la plus ignominieuse sur l'être humain, la volonté de destruction de l'humanité en tout être humain, et en même temps, il a assisté aux choses les plus belles qui lui étaient données de voir sur l'homme, puisque ces protestants dans le camp que ce soit lui ou les autres, ont eu une attitude tout à fait remarquable, notamment en essayant de défendre de toute leur force, hein, avec chaque morceau de leur être, justement ce qui constituait l'humanité. Parce que c'est un combat. Hein. Les nazis veulent essayer de vous transformer en animal, en vous privant de nourriture, en vous faisant jeter les uns sur les autres pour un morceau de pain. Et vous, si vous avez cette foi, vous allez essayer de rester un être humain. Et pour rester un être humain, ben, il faut invoquer en nous tout ce qui fait qu'on est un être humain, c'est-à-dire la pensée, la foi, la spiritualité, la beauté, l'art, la solidarité, toutes sortes de choses qui n'appartiennent qu'à l'espèce humaine et pas à l'espèce animale, justement. Et donc, au camp, Pierre va être un de ceux qui défendent cette attitude qui est très noble et qui est d'autant plus noble que dans un camp, c'est très difficile. C'est difficile de rester digne. On est sale, on n'est pas bien, on est malade, on fait caca sur soi, on sent mauvais et malgré tout, on meurt de faim. Et malgré tout, il va réussir, par exemple, avec d'autres Français, à organiser un petit réseau de solidarité qui consiste chaque jour à prélever sur la ration de pain un tout petit morceau, gros comme l'ongle, hein, c'est lui qui le raconte, pour former une petite boulette. Et la petite boulette, on va décider entre, dans le petit groupe, de désigner un déporté qui peut encore être sauvé pour la lui donner et le sauver. Et je vous assure que ça paraît rien, un petit bout de pain gros comme l'ongle, mais quand vous mourrez de faim, c'est un vrai sacrifice. Donc ça a été sa manière à lui de partager le pain dans un endroit où le partage était complètement exclu. Le premier, Brenez, disparaît. Pierre, en août 44, est très malade. Il a aussi la diphtérie. Il va être sauvé grâce à un camarade docteur déporté qui lui dit d'arrêter de manger quoi que ce soit et de se nourrir pendant 3 jours exclusivement de morceaux de charbon pour nettoyer les intestins. Et il va être sauvé de cette façon-là. Par la suite, ce petit groupe de protestants qui sont arrivés tous ensemble va être dispersé. C'est très banal dans les camps. Il y a une politique de la part des nazis de briser les solidarités en faisant se déplacer sans arrêt les déportés d'un camp à un autre. Deux vont être envoyés, c'est le cas de Robert Salomon, à Herzingen, qui est un camp annexe du camp de Natzweiler. Hein. Il y avait 50 camps annexes de Natzweiler, donc là c'est en Allemagne. C'est un camp où les déportés sont employés dans un travail très difficile qui consiste à fabriquer de l'huile de schiste, du gaz de schiste si vous voulez, pour trouver un ersatz de carburant à une époque où l'armée allemande manque cruellement d'essence pour les véhicules. Le pasteur Juto est envoyé à la prison de Breslau et il va mourir en avril 1945. Et les 4 autres, dont Pierre, sont envoyés à Dachau parce que le camp de Natzweiler, qui est le camp le plus à l'ouest de tous les camps de concentration nazis, est évacué dès le 1er septembre 1944 devant l'avancée des Alliés, mais il ne disparaît pas. Les déportés, c'est une manne trop précieuse pour les nazis, c'est la main-d'œuvre qui permet de fabriquer l'armement. Donc on les transporte à Dachau et ensuite éventuellement dans des camps annexes de Natzweiler. Pierre, lui, est envoyé dans un camp annexe de Dachau qui s'appelle Allar. Et là, son métier de dessinateur industriel va le sauver parce que du coup, les Allemands vont l'employer pour ce travail-là dans un bureau où il est relativement bien préservé. Finalement, sur ce groupe que j'ai cité au départ, hein, arrêté au pays de Montbéliard, seuls 2 survivent, Pierre Rollinet, qui est toujours vivant, et Robert Salomon, qui est mort il y a quelques années. Buschenschutz, lui, survit également, mais son histoire est assez triste, puisque après son retour, il est comme abîmé par l'expérience de la déportation. Contrairement à Pierre, qui a réussi à sublimer ce qu'il a vécu en tirant des choses extrêmement positives, finalement, que nous, on essaye de transmettre parce que c'est quand même une leçon superbe, Buschenschutz, lui, est dans le doute. Et je pense que sa foi également est ébranlée. Et il fait une dernière intervention, une dernière conférence le 20 décembre 1945, après son retour à Montbéliard. Et il s'interroge de la façon suivante. Il dit « Je ne sais pas si l'on peut partager encore beaucoup l'optimisme de Rousseau quand on a vécu dans un camp de concentration. Toute cette organisation des camps était fondée sur l'esclavage successif et progressif. Une poignée de SS régnait par la terreur, sur une poignée de chefs de bloc qui menaient d'eux-mêmes une poignée de capots qui terrorisaient à leur tour les pauvres musulmans. Musulmans, une précision sémantique, c'est un terme utilisé par les déportés pour désigner non pas des musulmans, mais des déportés qui sont totalement au bout du rouleau. Personne ne sait d'où vient cette expression, mais c'est ça que ça veut dire. À tous les échelons de la hiérarchie, les Allemands trouvaient, et après eux, dans tous les peuples, des collaborateurs et les exploiteurs qui leur étaient nécessaires. Ils se demandent si ces horreurs ont fait disparaître la foi. Il dit non, mais il ajoute « Tout cela a balayé toute foi en l'homme et en sa perfectibilité et dans le progrès de ses formes sociales, parce que je crois qu'aucun homme et aucune forme sociale ne sont à l'abri de ces mortelles erreurs. Cette expérience m'a montré toute la bassesse de l'homme, tous ses sursauts vers la noblesse et la grandeur, toutes ses limites aussi. Elle m'a montré que je pouvais vivre et que je pouvais mourir également parce que je croyais à autre chose qu'à notre pauvre terre, parce que je croyais en Dieu qui purifie et sanctifie toute vie d'homme qui se soumet à lui, parce que je croyais à un autre monde où la justice habitera. » Et finalement, il ne réussit pas à aller vers cet aspect lumineux, vers cette sanctification, et il se donne la mort le 10 avril 1946, ce qui pour Pierre Rolliner reste quelque chose aujourd'hui encore d'insurmontable, d'incompréhensible. Donc voilà un bilan extrêmement sombre pour ce groupe des protestants de Montbéliard, qui par la suite, ces protestants vont s'investir considérablement dans la mémoire du lieu. Parce que je vous parle du camp, mais il faut aussi parler de ce qui a suivi. Et notamment Robert Salomon, que je vous ai cité parmi ce groupe, qui était un jeune élève de l'Institut de Gley, va être pendant plusieurs années, quasiment jusqu'à sa mort, le président de l'amicale de Natzweiler et de ses familles, dans les années 2000, jusqu'à il y a quelques années. Et puis, je voulais citer un autre président de l'amicale, le premier, le fondateur en 1950 de cette amicale de Natzweiler, qui s'appelle François Faure et qui est un personnage remarquable, puisqu'il est un des cinq compagnons de la libération qui est passé par le camp de Natzweiler. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un compagnon de la libération. C'est un ordre qui a été créé par le général de Gaulle en 1940 pour distinguer les résistants et les Français libres les plus exceptionnels, un petit peu comme si c'était une Légion d'honneur parallèle, puisque la Légion d'honneur était aux mains du régime de Vichy. Donc, il a créé cet ordre qui ne compte que 1118 membres, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très restreint, c'est un tout petit nombre. Malheureusement, il n'y a que 6 femmes. Bon, on va dire que c'était l'époque qui le voulait, mais bon, c'est un petit peu injuste. Mais parmi eux, il y a ce François Faure, qui était fils d'un médecin et qui avait fait la Première Guerre mondiale déjà. Et puis en 1940, il reprend part à la campagne de France, il est fait prisonnier, il est interné en Allemagne dans un oflag comme il est officier, et lorsqu'il entend l'appel du général de Gaulle, il décide qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il réussit à quitter la prison en se faisant passer pour un très grand malade, presque invalide, et il se fait rapatrier en France en novembre 40. Et par la suite, il va prendre contact avec plusieurs éléments de la résistance, notamment avec ceux de la libération et avec l'organisation civile et militaire. Et lui, son travail, ça va être de donner des renseignements aux Anglais et en même temps d'aider des aviateurs anglais tombés sur le sol français à regagner la Grande-Bretagne. Il va donc se rapprocher d'un certain nombre de réseaux de renseignements et puis rencontrer, grâce à Pierre Brossolette, les milieux syndicalistes. François Faure joue également un grand rôle dans le rapprochement entre la France libre du général de Gaulle et les communistes. Il va servir d'intermédiaire dans ce dialogue. Et il va partir pour Londres à plusieurs reprises, transmettre justement les échanges, les courriers des communistes au général de Gaulle. Et puis revenir en France avec Christian Pinault, d'ailleurs, avec qui il était à Londres, Et il est arrêté à Paris le 15 mai 1942 par le contre-espionnage allemand. Et après une détention à la prison de Fresnes, il est à son tour transféré au camp de Natzweiler comme déporté NN, mais avant le groupe que je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il arrive avec le premier convoi de Nacht und Nebel français qui arrive à Natzweiler le 9 juillet 1943 et qui va être particulièrement maltraité. C'est ce convoi que les SS obligent pendant une après-midi entière de juillet à monter et descendre les escaliers du camp. Je ne sais pas si vous voyez le camp de Natzweiler, c'est très en pente, il y a beaucoup d'escaliers en granit. Et donc on les oblige à monter ces escaliers en portant un gros bloc de granit et en leur cognant dessus tout l'après-midi, ce qui fait qu'un grand nombre d'entre eux ne survit pas à cette torture. Dans ce camp, tous les déportés témoignent qu'il a fait preuve toujours d'un grand moral, d'un moral extraordinaire. Et à son tour, il va suivre le même parcours que Pierre Rollinet. Il est évacué vers Dachau en septembre 1944. Il va survivre et rentrer à Paris le 15 mai 1945. Et c'est lui donc qui, en 1950, soucieux de la mémoire de ce qui a été vécu à Natzweiler, décide de fonder cette amicale dont il est le premier président pendant très longtemps puisqu'il meurt dans les années 80. Donc vous voyez, c'est vraiment lui qui porte cette mémoire-là. Ensuite, on a Pierre Salomon et aujourd'hui, le président d'honneur de cette amicale, c'est Pierre Rollinet. Donc vous voyez que les protestants, ils étaient peut-être pas majoritaires dans le camp, mais dans la mémoire, ils ont été particulièrement investis. Et puis, avant de laisser la parole à Stéphane, je voudrais également citer un dernier parcours de protestants à Natzweiler, puisque là, on a été dans le pays de Montbéliard, on était à Paris avec François Faure, et je vais me tourner du côté de La Rochelle avec une figure tout à fait remarquable qui n'a pas été déportée à Natzweiler, mais qui y a trouvé la mort. Alors, ça permet aussi d'ajouter un peu une spécificité de ce camp de concentration. C'est qu'il y a eu 52 000 personnes déportées à Natzweiler et dans ses camps annexes. D'ailleurs, je salue Michael Landolt qui est là et qui représente ce soir le fort de Keuleu, où il y avait un petit camp annexe de Natzweiler. Il y a eu 52 000 déportés dans ce camp, mais il y a eu aussi un certain nombre de résistants et de résistantes, parce que normalement c'est un camp que pour les hommes, mais il y a eu des femmes et des hommes qui ont été emmenés à Natzweiler juste pour y être assassinés, parce que c'était un lieu très pratique pour les exécutions, il y avait des armes, il y avait des hommes en armes, il y avait un four pour faire disparaître les corps, donc c'était pratique. Et le cas que je vais vous citer, c'est celui de Léonce Vielgeux, qui est un homme qui est né en 1865, qui est originaire justement des Cévennes, une famille cévenole, qui est un protestant convaincu et qui a été diplômé de Saint-Cyr. Donc, il a commencé à faire une carrière d'officier dans l'armée française avant d'épouser, en 1891, une certaine Hélène Delmas, qui était la fille d'un grand armateur de La Rochelle, qui possédait une grande entreprise de bateaux. Et il va, ce Léonce Vielgeux, participer lui aussi à la Première Guerre mondiale, où il sera blessé. Et après la guerre, il décide d'abandonner la carrière des armes pour prendre la tête de cette grande industrie d'armateurs plutôt, de bateaux, qui s'appelle donc Delmas Frères et Vielgeux. Et il va développer considérablement cette entreprise en créant des lignes de bateaux vers l'Afrique française, vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vers nos départements d'Algérie, et tant et si bien que son influence étant si importante qu'il devient le maire de La Rochelle en 1930. Et ce maire de La Rochelle est un maire avec des convictions. Et par exemple, lorsque sont signés les accords de Munich, vous vous souvenez ces accords en 1938 par lesquels les démocraties françaises et britanniques reconnaissent officiellement à Hitler le droit d'annexer les Sudètes, qui sont cette petite région germanophone de l'actuelle République tchèque. Il refuse, il trouve que c'est absolument inadmissible de céder devant Hitler. Hein. Il dit la chose suivante, « Le peuple de France n'a pas voulu voir qu'au-delà du Rhin et au-delà des Alpes, on s'armait fiévreusement. Ces chemins nous ont conduits à Munich pour signer un des plus tristes moments de notre histoire. Si nous ne les abandonnons pas courageusement, ils conduiront demain nos fils dans les cimetières et ils mèneront au suicide de la France. Grande clairvoyance de Léonce Vielleux, à qui, exactement au même moment que le général de Gaulle, fait le même constat, c'est qu'en croyant sauver la paix, on est en train de hâter la déchéance de la France. Dès l'occupation du pays, il résiste, c'est immédiat. Et comme il est maire de La Rochelle, dès le 23 juin 1940, que se passe-t-il ? Un lieutenant nazi arrive à la mairie et lui demande de mettre le drapeau à croix gammée sur le bâtiment de la mairie. Alors ça, c'est son premier acte de résistance. Et vous allez voir, il le fait assez subtilement, c'est-à-dire qu'il ne l'envoie pas balader. Il lui dit juste qu'il veut un ordre écrit, mais par un officier du même rang que lui, puisqu'il est officier, il n'a pas à recevoir d'ordre d'un subalterne. Bon, c'est pas très bien pris par les nazis. Par la suite, il va refuser de mettre des affiches nazies anti-britanniques à la suite de la destruction de la flotte française à Mers el-Kébir par les Britanniques. Et il explique aux nazis qu'il ne veut pas mettre ses affiches. Là encore, il invoque une raison de droit. Il dit « ça n'est pas prévu dans les clauses d'armistice ». Donc, il refuse de mettre les affiches. Il commence à organiser des filières d'évasion. Il se rapproche d'un grand mouvement de résistance qui s'appelle Alliance et qui se consacre à la transmission de renseignements vers la Grande-Bretagne. Et il va attirer avec lui, parce que c'est quelqu'un de très charismatique et de très aimé à La Rochelle, il va attirer avec lui de nombreux protestants de La Rochelle qui sont restés fidèles à la République et qui vont s'engager avec lui. Le 22 septembre 40, vous voyez que ça n'a pas traîné, il est destitué de ses fonctions de maire par le préfet de la République, enfin il n'y a plus de République, par le préfet du régime de Vichy, sur ordre des Allemands, et il est expulsé de La Rochelle, on l'assigne à résidence à Jarnac chez sa fille jusqu'en novembre 41. Puis il revient à La Rochelle où il va vraiment développer ses activités de résistance avec Alliance et aussi en aidant certains ouvriers de son industrie à s'exiler, à résister, etc. Tant et si bien que le 14 mars 44, il est arrêté par la Gestapo à La Rochelle pour avoir aidé deux ouvriers précisément à s'exiler. Et il n'est pas arrêté tout seul puisqu'il avait constitué autour de lui un véritable groupe de protestants résistants. Il est arrêté avec son petit-fils, Yann Roulet, qui est pasteur à Mougon à l'époque. Et ce Yann Roulet, qui a décidé de devenir pasteur justement en 1938, l'année des accords de Munich, a fait ses études théologiques pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Et en 1942, il a soutenu son mémoire de licence à la faculté protestante de Paris sur le thème suivant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc là aussi un thème qui, on le voit, a un écho direct avec la situation du pays. Et ce mémoire est publié d'ailleurs en 1950 chez Plomb. Vielleux qui est arrêté avec son petit-fils, le pasteur Roulet, avec ses deux neveux, Franck Delmas et Jean Chaperon, ainsi que l'ingénieur en chef de son entreprise de bateaux, qui s'appelle Joseph Camaret, tous appartenant au réseau Alliance, qui a été largement trahi. Tous suivent le même parcours. Vous voyez, on est un peu comme dans le groupe de Montbéliard. Ils vont tous à la prison de Poitiers et ensuite sont envoyés à Fresnes, qui est un peu le passage obligé des prisonniers politiques en France. Et ensuite, sans doute, le camp de Royallieu. Ils sont tous sanctionnés par le décret Nartun-Nebel également. Mais on ne va pas les envoyer à Natzweiler parce que, je ne sais pas pourquoi, on ne les envoie pas à Natzweiler, mais on les envoie dans le camp d'internement de Schirmeck. Vous savez, en bas de la montagne de Natzweiler, de l'autre côté de la rivière, il y a la ville de Schirmeck. Et là, il y avait un camp d'internement qui était destiné normalement aux Alsaciens et aux Mosellans, qui étaient un peu trop récalcitrants à la nazification. Et là, exceptionnellement, on a ce groupe de NN qui arrive dans le camp, qui est placé dans la même baraque, la baraque numéro 10, où Yann Roulet, le pasteur, chaque jour, en dépit des interdictions, prononce une méditation pour ses camarades. Le sort de ce groupe est particulièrement tragique, puisque lorsque les Alliés ont libéré Paris et commencent à avancer vers l'Est, les nazis depuis Berlin donnent l'ordre d'évacuer le camp de Natzweiler le 1er septembre 1944 et en même temps décident de faire le ménage parmi les résistants qui sont emprisonnés à proximité. Donc ordre est donné de liquider les 106 membres du réseau Alliance qui sont encore enfermés à Schirmeck. Et pour cela, ils vont être conduits 12 par 12 en camion jusqu'au camp de Natzweiler, qui est à une douzaine de kilomètres de là. Et ils vont y être exécutés par balle pendant toute la nuit, 12 par 12, hommes et femmes, et directement ensuite brûlés dans le four crématoire du camp. Donc c'est ainsi que disparaît Léon Svieljeu. Quand cette nouvelle arrive à La Rochelle, parce que ça se sait, il faut quelques mois avant que la famille apprenne cette mort, il va y avoir deux services religieux qui vont être donnés à La Rochelle. La date est importante, c'est le 27 janvier 1945, c'est le jour de la libération d'Auschwitz-Birkenau, mais ça personne ne le sait à l'époque. C'est une date importante parce que La Rochelle n'est pas libérée du tout à l'époque. Et que ça veut dire que la manifestation est totalement interdite par les Allemands. Il va y avoir une messe à la cathédrale Saint-Louis et un office au temple protestant en l'honneur de Svieljeu. Il y a 3000 personnes qui se rassemblent, tellement ce personnage était charismatique. Et alors c'est très drôle parce que ce midi, non c'est pas drôle, mais ce midi je rencontrais l'ancien aumônier protestant aux armées. Et il me dit, je lui parlais de cette histoire, et il me dit, j'ai conservé le prêche, le texte du pasteur qui a fait l'hommage à Léon Svieljeu à la Rochelle. Je dis, écoutez, si vous pouviez me le trouver pour ce soir, ce serait vraiment formidable. Alors, il est formidable parce qu'il m'a trouvé le... Enfin, il n'y a pas tout le prêche, parce que ça, il faut qu'il recherche, mais il m'a quand même trouvé un extrait du prêche. Et en fait, le pasteur qui s'appelait Augustin Barrault, s'est appuyé sur la parole de Samuel, disant, le thème c'est « Un chef est tombé aujourd'hui ». Donc je n'ai pas le reste du prêche, mais j'espère qu'il me l'enverra et que je pourrai vous le transmettre. Enfin, ça, il dit notamment que Svieljeu était un chrétien modeste et discret, qui nous laisse ce qu'il avait de plus précieux pour nous, son exemple. Donc je pense que le reste doit être tout à fait magnifique également. Donc voilà, c'est quelques parcours qui ne sont pas qui se terminent tous tragiquement, mais qui nous laissent malgré tout cette exemplarité, cette force, hein, cette foi. Et puis peut-être on peut ajouter maintenant à ces différents parcours celui de notre ami Crémer.
Oui, qui finit mieux en ce qui le concerne, par bonheur, parce que donc oui, Jean-Paul Crémer donc est aussi un protestant, mais il appartient à une minorité dans la minorité, qui est la minorité mennonite. Il appartient donc à une famille alsacienne, et comme vous le disiez tout à l'heure, le contexte familial joue beaucoup dans l'engagement résistant, dans la transmission de certaines valeurs qui, quand elles sont confrontées à des décisions importantes, jouent. Et le père de Jean-Paul Crémer donc, est un ancien mennonite qui est... Alors, il n'y a pas d'institution mennonite en France à cette période. Les églises, les assemblées sont très dispersées. Il y a deux conférences, une conférence de langue allemande, une conférence de langue française. Et il y a quelques personnages qui sillonnent les églises pour apporter la parole. Et Émile Crémer, le père de Jean-Paul, en fait partie. Et en fait, c'est quelqu'un qui, très tôt, prend conscience du danger nazi dès l'apparition de Mein Kampf. Il en entend parler via les mennonites allemands et il prend conscience du danger que le nazisme représente à cause de sa position par rapport aux juifs. Et ça sonne comme une sonnette d'alarme pour Émile Crémer. Un régime, ou en tout cas une personnalité qui veut s'en prendre aux juifs pour répondre aux problèmes de la nation, c'est un régime démoniaque, c'est... quelque chose avec lequel il ne faut absolument pas se compromettre. Donc très tôt, il va annoncer dans les réunions, dans les assemblées qu'il visite, il va avertir du danger de la montée du nazisme et encourager les mennonites à ne pas se compromettre avec ce mouvement politique. Et puis lorsque le nazisme arrivera au pouvoir, refuser l'enrôlement obligatoire dans les institutions, notamment le parti, mais aussi les organisations de jeunesse. Et donc Jean-Paul grandit malgré tout avec, dans sa conscience, l'impossibilité de se compromettre avec un régime de cet ordre. Donc quand il est au lycée, bien sûr, il a 17 ans, la nazification de l'Alsace est en marche et il refuse le salut hitlérien obligatoire, les saluts au drapeau, et s'attire donc des ennuis. Il est placé au Reich Arbeitsdienst, c'est ça ? Je ne parle pas très bien allemand. Donc en régime sévère, comme représailles, il doit être enrôlé par la suite dans la Wehrmacht, puisqu'on est en 1942, à l'été 1942. Et il y a un moment de cérémonie assez impressionnant, comme elle est racontée dans ses mémoires, où ils sont obligés de prêter serment d'allégeance et de fidélité au Führer avant de rentrer dans la Wehrmacht. Et cette cérémonie est publique, elle est en présence des autorités, et ils refusent de le faire. Et là, ça déclenche bien sûr alors là, la colère des officiers, et c'est là que les choses vont se dégrader pour lui. Il est torturé pendant plusieurs mois et tenu dans les prisons de la Gestapo, et puis envoyé donc au camp de Netzweiler-Struthof. Il arrive, je crois, le lendemain de ses 18 ans, en plein hiver, et il va y rester 4 mois, jusqu'en mars 1943. Et comme c'est une histoire de survie, malgré tout, c'est intéressant de voir quels sont les mécanismes par lesquels, grâce auxquels il va survivre. Déjà, on a parlé tout à l'heure de la solidarité entre protestants, mais il y avait aussi des solidarités un peu plus originales. Et là, il va être secouru par des communistes athées qui vont le protéger, qui vont lui donner la possibilité d'être dans la chambre des effets personnels, qui est quand même un endroit un peu, même s'il est en lien direct avec les SS, qui est un peu moins dur que la carrière de granit. Donc il survit grâce à cela. Et puis il est envoyé à Burenwald jusqu'à la libération en avril 1945, où là encore il va survivre grâce à des solidarités, et notamment la solidarité des communistes qui ont pitié de lui à cause de son âge et aussi de sa grande solitude, parce qu'en fait il est jeune, il est alsacien, réfractaire à la Wehrmacht, religieux, tout en bas de la hiérarchie du camp. Donc plusieurs fois il suscite la pitié et c'est comme ça qu'il va survivre en étant caché à la cordonnerie jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est intéressant de voir les mécanismes de sauvetage, et puis après il y a ce dont on a parlé, la foi, la spiritualité, c'est-à-dire aussi une sorte d'assurance qu'il a depuis le début, qu'il est dans le plan de la volonté de Dieu, en ne se compromettant pas avec le nazisme. Donc il n'y a pas de doute, il a une sorte de foi simple, hein, peut-être on pourra y revenir pendant les questions, mais la question de la pratique de la foi, de la spiritualité dans les camps de concentration est quelque chose d'assez difficile. Et même s'il est trop abruti pour pouvoir prier, même si la pratique de la foi est extrêmement difficile, il a cette sorte de conviction intérieure, de lumière intérieure qui lui donne une sorte d'assurance grâce à laquelle il ne fléchit pas, ne devient pas un de ces musulmans qui malheureusement en fait sombre à cause de la dureté des conditions, il est libéré en 1945. Et ce qui est aussi intéressant en ce qui le concerne, donc, c'est l'après, l'après, puisque la question de la reconstruction, de la vie après les camps est très problématique. Alors les cas de perte de la foi chez les protestants, c'est vrai qu'elles sont assez rares, mais il y a quelques suicides quand même de déportés qui reviennent, de protestants déportés qui reviennent, il y a quelques cas de suicides. Et lui, finalement, est assez miraculé, même au niveau de la résilience, entre guillemets, parce qu'il va s'engager tout de suite comme missionnaire. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, pour dépasser ça, et aussi par appel, par vocation, va plutôt essayer d'apporter ce qu'il a compris de la vie spirituelle par la prédication de l'Évangile. Il passe une dizaine d'années en Écosse, dans une mission écossaise. Et puis il revient en France, et pendant jusqu'à la fin de sa vie, il sera pasteur et missionnaire dans le centre de la France.